Père Thaddée, bonjour, ravi de vous avoir avec nous sur les ondes de Radio Maria France.
Bonjour Olivier, bonjour, merci, merci de me recevoir
Et de vous
dans la
recevoir
radio Marie.
pour la seconde fois. Vous nous aviez déjà
C'est ça.
parlé de votre glorieux fondateur, Saint Pierre Julien Aimard. Nous fêtons le 60e anniversaire de sa canonisation. Vous êtes, vous, de la congrégation du Saint-Sacrement. Nous allons parler amplement pendant ces 30 minutes qui nous sont offertes du Saint-Sacrement et aussi de Pierre Julien Aimard, de sa vie, de son charisme eucharistique. Voulez-vous bien, pour ce saint qui a foulé la terre où nous sommes, hein, nous sommes à la Garde, pas loin de Toulon, pas loin de la Seyne-sur-Mer où il était au Mariste, où il a fondé l'adoration nocturne, où il a tant fait. Comment est venu cet attrait pour l'adorable sacrement?
Oui, le Saint-Pierre Julien Aimard, il est né à la Mure d'Isère, donc c'était le 4 février 1811. Il y est mort, toujours à la Mure, c'était le 1er août 1868. Alors, comment il est arrivé à cette grâce qu'il a reçue? Eh bien, c'est déjà de son enfance, donc on peut dire qu'il a reçu le baptême le 5 février, un jour après sa naissance, donc le 5 février 1811. Alors, dans sa vie, toute sa vie, il dit, le rappel constant de sa grâce de baptême lui procurait le dynamisme du don de soi pour l'amour du Christ et celui des autres. Alors, et peu après, il a reçu la première communion, et bien, lorsqu'il reçoit la première communion, il fit à Jésus la promesse de devenir prêtre. Et de là, Dieu suscita en lui le désir de vivre dans une communion de vie intime avec Jésus-Christ et demeurer en sa présence. Et donc, il va se préparer au sacerdoce. Enfin, déjà, il a cette vocation. Et alors, il mène une vie de discipline sévère. Surtout à travers la prière, attachement à Jésus par la bienheureuse Vierge Marie, et il fait beaucoup de pénitence. Déjà à 11 ans, il va se rendre au sanctuaire du Lot, pratiquement à 70 km d'ici, à pied, pour se préparer à sa première communion. Et finalement, il s'attache à la Vierge Marie, il priait beaucoup la Vierge Marie. Et plus tard, voilà. Il est ordonné prêtre, c'était le 20 juillet 1834. Alors, d'ailleurs, il va le dire, oui, si je suis prêtre, dit-il, il le doit à la Très Sainte Vierge Marie. Alors, ordonné prêtre, il est envoyé à Chotte, c'est dans, comment on dit, dans la paroisse de Saint-Marcellin aujourd'hui. Il est envoyé là proche de Grenoble comme vicaire. Eh bien, là, il développe à la fois une vie de pasteur, d'intellectuel et spirituel. Comme pasteur, eh bien, c'était un homme de terrain qui était d'une bonté et d'un dévouement rare pour ses brebis. Son vœu, son idéal, c'était de faire connaître le Christ. Son amour et ses enseignements furent vraiment le cheval de bataille de ses saints. Il a fait beaucoup de prédications. Alors de là, il va s'astreindre à une vie rigoureuse, intellectuelle et rigoureuse, dans l'approfondissement des vérités de foi. Parce qu'il n'a pas eu, j'ai enjambé un peu son enfance, parce qu'il n'a pas eu assez de temps pour étudier. Il était l'unique enfant, d'un deuxième mariage. Il n'a pas beaucoup étudié. Alors il va faire beaucoup d'efforts pour sa vie intellectuelle.
Comme le Saint
Alors,
Curé d'Ars, hein, c'est ça. Oui, comme le Saint Curé, c'est ça
exactement.
qui a complété par la suite en lisant, relisant, lisant et préparant abondamment, parce qu'il n'avait pas les facilités au départ ou le temps reçu.
Exactement. Il n'avait pas le temps reçu. Alors, il va se mettre vraiment à beaucoup lire, beaucoup étudier. Et surtout que, en ces temps-là, on disait que les historiens parlaient des insuffisances de la formation du clergé français, donc à la première moitié du 19e siècle. Alors il va se lancer dans beaucoup de prières, beaucoup de temps de réflexion justement pour approfondir ces carences au niveau intellectuel, au niveau de la théologie spirituelle, ainsi de suite. Eh bien, alors, lui, il va se rendre à Saint-Romain, proche toujours à Chatte. Il va se rendre là, il va accompagner son curé qui va aller voir son ami qui est curé justement à Saint-Romain. Je crois que c'est à 7 km de Chatte. Eh bien, son curé, il prend son moment de causer avec son ami. Lui, il va se détendre. Il va marcher à pied et il arrive à un rocher. Quand on arrive à Saint-Romain, le rocher surplombe un peu le cimetière. Il contemple la nature. Il voit vraiment, il sent en lui, Dieu révèle en lui vraiment son amour, l'amour de Dieu qui surgit dans la création. Cet amour l'émerveille et le bouleverse. Et cet amour, pour lui, vraiment, c'est un peu comme le socle, une boussole qui va baliser sa vie et sa mission. Ça sera déterminant, justement, pour sa découverte de la vocation eucharistique. Alors, ce n'est pas tout. Et donc, après Chatte, Saint-Romain, il est nommé curé à Montenard. Et là, Montenard, c'est à 15 km d'ici, de la Mure. Eh bien, c'est là vraiment il va révéler ses vertus de pasteur. Il sera auprès du peuple, l'écouter. Il va améliorer l'Église. Mais il va se rendre 2 ans après à Lyon. C'est là vraiment Lyon, c'est le berceau de sa vocation. Alors, il se passe 3 événements-là. D'abord, c'était le 25 mai 1845. Eh bien, il reçoit la grâce de vocation. Vocation, il la reçoit dans l'église Saint-Paul, c'était à la fête du Saint-Sacrement. Alors, le curé l'invite à conduire la procession du Saint-Sacrement. Eh bien, il conduit cette procession qui était de 2 heures, et pour lui, ça n'était passé qu'un petit instant. De là, vraiment, surgit en lui un irrésistible désir de porter le monde à la connaissance de l'amour de Dieu dans l'Eucharistie. Alors, pour y arriver, il va s'inspirer de la pensée et du zèle apostolique de Saint Paul pour la réalisation de ses projets. À partir de là, il va lire, dit-il, chaque jour au moins 2 chapitres de lettres de Saint Paul pour se préparer justement, se préparer à cette vocation qui surgissait en lui. Deuxième événement, toujours à Lyon, c'était le 21 janvier 1851. Là, c'est au sanctuaire Notre-Dame de Fourvière. Il va se rendre à ce sanctuaire, il prend un moment de prière. Alors, émerge en lui, à la suite des inspirations précédentes, cette pensée imbattable. C'est-à-dire, la pensée consiste à susciter une branche d'hommes au sein de l'Église pour aider les prêtres et les laïcs par des retraites, des adorations, lutter contre les limites spirituelles, encourager la dévotion, réparer les sacrilèges envers le Saint-Sacrement. Voilà cette pensée qui le tient beaucoup. Et j'ai oublié de vous signaler qu'il est parti à Lyon, dans la congrégation des Maristes, qui sont encore là. Là, il est Mariste. Alors, un troisième événement, mais là, ça se passe sur la Seine-sur-Mer, c'est le 18 avril 1853. Alors là, eh bien, ça se passe en pleine action de grâce de la célébration de l'Eucharistie. Eh bien, le Père Aymar, il sentit en lui s'aimer un sentiment irrésistible de reconnaissance et de l'amour de Jésus, de sorte qu'il établit un ordre religieux du Saint-Sacrement, celui-ci qui va s'engager à l'adoration perpétuelle et au prêche sur le Saint-Sacrement. Alors, en bref, c'est ceci. Donc, pour cette éclosion de sa vocation, il y a un fait que j'ai oublié de mentionner. Quand il était enfant, on l'avait trouvé, très enfant, on l'a trouvé accroché au tabernacle. Lorsqu'on le cherchait, on ne le voyait pas. Sa sœur va se rendre dans l'église, et eh bien, il voit l'enfant accroché au tabernacle. Il lui dit, mais que fais-tu là? Il dit, mais ici, j'écoute mieux Jésus. Donc, nous prenons cet événement, nous prenons cette grande grâce dont je viens de parler comme à Saint Romain, où il découvre l'amour de Dieu à travers la création. Ce passage chez Saint Paul, où il a le désir de faire quelque chose, enseigner sur Jésus-Christ, l'adoration du Saint-Sacrement, à Fourvière et aussi à la Seyne-sur-Mer, ce sont des grâces fondamentales qui ont nourri justement, qui l'ont porté à la naissance, disons à la décision de sortir de Maryse pour fonder cette congrégation du Saint-Sacrement. Voilà donc, alors, qu'est-ce qui se passe? De là, il va quitter Lyon, il va se rendre à Paris. Et à Paris, eh bien, c'était en 1856, le 13 mai, il va fonder la congrégation du Saint-Sacrement, qui a pour rôle d'adorer et de faire adorer et de s'occuper de la première communion des adultes. Donc ça, pour lui, c'était la volonté de Dieu qui s'est manifestée et qui l'a expliqué à Monseigneur Dominique Cibourg, qui était l'archevêque de Paris en ce temps-là. Alors l'archevêque, vraiment, d'abord, il était dubitatif, enfin, il hésitait d'accepter, mais dès qu'il a parlé de s'occuper de la première communion des adultes, eh bien, il a dit, ça, c'est l'œuvre qui me manque. Alors peut-être nous pouvons signaler quelque chose ici. Et quand il dit qu'il va s'occuper, adorer, faire adorer, s'occuper de la première communion des adultes, le fait qui attire beaucoup, disons, comment dire, qui plaît beaucoup à l'archevêque, c'est le fait qu'il y a adoré, il y a faire adorer la première communion des adultes. Et ici, vraiment, il est un peu, c'est comme dit notre pape aujourd'hui, il nous demande d'aller à la proximité, à la périphérie, voilà, aller à la périphérie, c'est là que nous pouvons annoncer, disons, la parole de Dieu aujourd'hui. Alors, ça se passe aussi comme ça. Comme en ces temps-là, c'est l'avènement de l'industrie. La Révolution française, eh bien, les gens ne sont pas, on ne les voit pas beaucoup dans les églises, et même le dimanche, ils travaillaient. Alors, lui, on peut dire comme ça, et virtuellement, il va déplacer l'église, il va planter l'église aux sorties des industries, là où les gens sortaient dans les industries, les jeunes, ainsi de suite. Eh bien, c'est là qu'il va se planter, il va les catéchiser et puis il les aide à devenir comment des chrétiens. Alors qu'ils ne venaient pas à l'église, mais lui se déplace jusque là où il y a des industries. Quand les jeunes sortaient, eh bien, il causait avec eux et il les a aidés beaucoup à devenir des chrétiens. Voilà. Et donc, après la fondation le 13 mai 1856 des religieux du Saint-Sacrement, il va chercher à ce que la grâce qu'il a reçue puisse s'étendre. Il va fonder la branche féminine. Ce sont les servantes du Saint-Sacrement. C'était en 1858. Et puis il se dit que le Saint-Sacrement, ce n'est pas seulement pour les religieux, les religieuses, mais il y a aussi les laïcs. Voilà pourquoi il va fonder l'agrégation du Saint-Sacrement, un corps de laïcs dont l'Eucharistie est le centre de vie. Alors, le 3 juin 1863, eh bien, cette fois-ci, il va obtenir du pape Pie IX le décret pontifical d'approbation de son œuvre. Et un décret qu'il appelle, lui, de Père et Mère, un miracle de protection et de grâce. Voilà donc, ce miracle, celui qu'il qualifie, vient du fait qu'en peu de temps, son œuvre a eu de grands progrès. Donc, le pape a senti sa passion, son zèle pour le développement du culte eucharistique en France. Il reçoit beaucoup de désencouragements de plusieurs évêques en France. Et puis voilà, donc tout ça a amené le pape à approuver son œuvre. Donc et lui, il se rend compte qu'il a fait un certain parcours, l'œuvre est là, l'œuvre commence à se répandre, il commence à fonder de communautés. Eh bien, il dit, il y a quelque chose qu'il faut faire, qu'il n'a pas encore fait. Eh bien, il disait qu'il doit beaucoup travailler pour sa sainteté personnelle. C'est pourquoi il va faire une retraite de 3 mois, pratiquement, du 25 janvier au 30 mars 1865. Il fait une grande retraite. Eh bien, cette retraite, il va la faire parce qu'il était aussi en même temps soucieux de fonder une communauté religieuse au Mont Sion, à Jérusalem, au Cénacle plus précisément, où le Seigneur a fondé, a institué l'Eucharistie. Mais ce projet va buter à une longue attente de la part de la Congrégation générale des cardinaux au Vatican, et qui était dubitative et finalement opposée à la fin. Voilà, alors lui, il s'est dit, bon, donc au sursis du projet de Cénacle, il surgit en lui son vœu de la personnalité à la fin de cette retraite. Et Marc va s'engager à imiter le Seigneur dans son incarnation et à faire sienne cette parole de Dieu, de Saint Paul, Galates 2:20, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Donc, alors, pour capitaliser et fructifier cette grâce, Aymar va commencer par le centre. Le centre, c'est, il commence par la convocation du premier chapitre général de sa congrégation qui eut lieu du 3 au 9 juillet 1865. Donc, outre les questions traitées et retenues sur la fin, la vie, la fin et le culte de son institut, alors ses confrères vont balayer d'un revers de main son désir de se placer hors de tout concours. Il vous disait, bon, moi j'ai fait, vous continuez, moi je me repose. Mais non, ils vont pas accepter cela. Et Marc, les yeux noyés dans d'abondantes larmes, il fut élu super général pour la vie. Donc voilà un peu ce qui a été sa vie. Alors, dans les derniers temps, dans ces dernières années, Marc qui était donc transformé, certes, et enrichi par la grâce du don de personnalité, il va boucler sa vie dans les grandes épreuves spirituelles et physiques. Beaucoup d'épreuves, il les a vécues. Il y a d'abord le départ de certains membres, dont le père de Cuers, qui était son premier compagnon, la fermeture des communautés, notamment une communauté de Nemours. Il faut noter aussi qu'il avait une santé déficiente, continuelle, en déficience continuelle. Et donc, il était broyé par des doutes. Qu'est-ce qui va se passer? Aussi, il reçut la grâce de s'identifier au Christ eucharistique qui, par le pain, se fait broyer pour que tous le mangent et s'usent de lui davantage. Alors, Aymar, d'ailleurs, il est qualifié comme apôtre de l'Eucharistie par Saint Jean-Paul II. Et donc, il fut un prédicateur de l'Eucharistie infatigable, hors pair. Il avait, disais-je, une santé dégringolante. Et puis, il va s'engager sans répit, malgré sa santé qui était dégringolante. Il va s'engager à travers beaucoup de prêches aux novices, aux frères de Saint-Vincent de Paul, à Notre-Dame-des-Victoires à Paris, sa communauté de Paris, alors que vraiment il allait, disons, vers la mort. Il n'avait plus de force. Donc, il va, dans son ultime, par exemple, sermon sur le chapitre 6 de l'Évangile selon Saint Jean, il va inviter ses confrères à rendre hommage à Dieu, à demander la foi en Jésus-Christ, en sa parole et à l'Église. Alors, il va boucler sa vie. Donc, c'était le 1er août 1868, à La Mure, où il est né, où il a été baptisé. Voilà. Il était entouré de ses deux sœurs et de quelques confrères et des personnes de tout âge. Tous étaient en larmes. Et il sera anéanti par deux fatigues. Après tant d'efforts, il va succomber à une congestion cérébrale. Il va boucler sa valise, donc, et remettre les clés avant de voyager vers le ciel. Alors, le Saint-Sacrement, qu'il a beaucoup chéri, qu'il a beaucoup prêché, aura indiqué au monde d'aujourd'hui, eh bien, le vrai chemin du bonheur qui consiste à se mettre à la quête de l'amour de Dieu dans l'Eucharistie et en devenir témoin par le dépouillement de soi-même. Alors, Aymar est béatifié par le pape Pie XI, c'était le dimanche 12 juillet 1965, La même, vous parliez tout à l'heure du Saint Curé d'Ars, la même année où le Saint Curé d'Ars était canonisé. Alors, il sera canonisé, le Père Aimard, le 9 décembre 1962. Vous avez parlé des de derniers versets de la canonisation. Donc, c'est cette année, nous allons fêter le 60e anniversaire. Il est canonisé par le pape Saint Jean XXIII à l'issue de la première session du Concile Vatican II. Donc, l'Église fête beaucoup d'événements, mais entre autres, le 60e anniversaire du Concile Vatican II et aussi qui coïncide avec le 60e anniversaire de la canonisation de Saint Pierre-Julien Aimard. Alors, le pape Saint Jean XXIII va indiquer dans son homélie de la canonisation, il dit, le culte et l'apostolat eucharistique, voilà, c'est le centre de pensée, d'affection et de toutes les entreprises de ce nouveau saint, Saint Pierre-Julien Aimard. Il nous l'indique aussi comme lieu justement disons, de la perfection de notre foi. Et le pape Jean-Paul II va le présenter le 9 décembre 1995 à toute l'Église comme apôtre de l'Eucharistie. Et au même moment, il va fixer sa fête liturgique dans le calendrier de l'Église le 9 août, le 2 août de chaque année. Voilà. Donc voilà un peu en bref.
Oui, on se rapproche, oui. On se rapproche en effet, vous êtes hein, de la congrégation du Saint-Sacrement. Ce Saint-Sacrement, Saint-Pierre-Julien Aimard l'indiquait, vous nous l'avez bien montré, comme le vrai chemin du bonheur, où nous trouvons toujours la présence aimante de l'amitié et les premiers secours. Qu'est-ce qui, pour vous, Père Thaddée, bloque ce chemin à notre époque pour trouver cette perle précieuse cachée dans toutes nos églises?
Oui, oui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui bloque? Il faut dire que le Père Aimard, justement, est dans. D'ailleurs, c'est, disons, dans le résumé que je viens de faire sur sa vie. Donc, il nous demandait, j'ai dit un peu haut là, il disait, c'est ce qui bloque. Vous vous rappelez dernièrement, le pape était il a fait un discours au chef religieux, je crois, dans un pays de l'Asie, où il indiquait vraiment des points sur lesquels on doit travailler. D'abord, il a parlé de la question de COVID. La question de COVID, le pape disait beaucoup de fois, voilà, c'est l'égoïsme qui nous porte beaucoup à oublier les autres. Voilà, chacun cherche pour toi. C'est le même égoïsme, le même. On est tourné vers soi. Vous avez dit ce qui bloque. On est tourné vers soi. Nos égoïsmes qui font qu'il y a une question de la fraternité qui est là, mais nous ne voyons pas beaucoup cette question de fraternité parce que nous sommes récoltés.
Vous voulez
Oui.
dire, mon père, comme nous dit saint Paul, malheur à ceux qui ne discernent pas le corps. Ils ne pourront
Oui.
pas communier, donc
Exactement.
l'adoration est une dilatation de la très sainte messe, et donc s'il n'y a pas cette connaissance, cette charité avec le corps du Christ, ses membres de l'Église,
Oui.
il ne peut pas y avoir un véritable accès, vous voulez dire?
Exactement, parce que l'adoration, justement, la messe, au fait, le Père Aimard, lui, le centre de la vie, c'est le centre de la vie, le centre de la vie de l'Église, le centre de la vie de l'Église, c'est l'Eucharistie. Donc, la messe et le culte, après la messe, donc le culte de l'adoration, ce sont des lieux vraiment qui nous aident à nous revoir nous-mêmes, qui nous aident, comme vous avez bien dit, à nous retravailler pour dire, mais il y a des choses auxquelles nous sommes accrochés, que nous sommes appelés à nous décentrer, à nous dessaisir de ça, pour soulever les yeux, pour voir les autres, pour voir les besoins des autres. Et c'est dans cette mesure que nous voyons le besoin des autres, et bien que nous nous épanouissons. Toute la Bible est faite de ça, même le dernier congrès eucharistique international, le pape revient sur ça. J'ai écouté dernièrement l'évêque, le cardinal du Marseille, Aveline, je crois son nom, qui s'est adressé à ses prêtres. Il est revenu, nous devons nous décentrer sur nous-mêmes pour voir les autres. Si on est centré sur nous-mêmes, voilà cette question de COVID qui est arrivée, mais si on se décentre, on ouvre les yeux, eh bien on va faire beaucoup de bien dans cette question de fraternité, dans cette question de l'écologie que nous déplorons aujourd'hui, on est là-dedans, dans les questions de l'accueil des autres. Voilà, c'est et l'Eucharistie est vraiment le lieu qui nous aide à, qui nous donne une nouvelle naissance, voilà, un renouveau justement pour voir les choses autrement, pour notre bonheur et le bonheur des autres. Voilà, c'est ça un peu tout. D'ailleurs, c'est voilà le Christ, tout le temps, le Christ était quelqu'un qui était en sortie. D'ailleurs, aujourd'hui, l'évangile d'aujourd'hui, non, Saint-André. Il sortait, il était au bord de la mer. Donc, c'est quelqu'un qui est en sortie. Et c'est cette sortie qui nous aide justement à nous épanouir. Sans cette sortie, voilà, les choses, ça bloque. Voilà. Et là, nous avons la chance d'avoir l'Eucharistie. On a la chance d'avoir comment vous appelez les cultes après l'Eucharistie. Ils sont des lieux vraiment de fraternité, des lieux de, comment dire, de charité. Et voilà. Donc, il n'y a pas de différence entre la messe, l'adoration du Saint-Sacrement et la vie et la charité, c'est une même chose. Et donc, la messe, l'Eucharistie sont des lieux qui nous mettent en question, c'est une remise en question de nos façons de voir, de nos façons de penser et une canalisation des lumières qui nous arrivent pour essayer justement de nous épanouir. Voilà, c'est un peu.
Père Thaddée, nous sommes en 2022. Saint-Pierre-Julien Aymard était d'une époque, l'époque du Saint-Curé d'Ars. Notre époque doit affronter d'autres défis. Et qu'est-ce qu'il a à nous dire encore, nous, en tant que catholiques qui vivons cette époque-ci? Vous parliez du chemin du Saint-Sacrement, mais qu'est-ce qui s'y trouve vraiment dans ce Saint-Sacrement? Pour donner envie à ceux qui peut-être n'ont pas goûté et vu à quel point le Seigneur est bon dans ce sacrement et à quel point il est là, dans l'amitié et dans l'attente.
Et merci pour votre question. Et ça me rappelle justement ce que le Père Aymard disait plusieurs fois à ses communautés de religieuses. Et beaucoup de fois, ils se disputaient entre eux, il y avait des problèmes qui n'allaient pas. Eh bien, il disait, vous avez l'Eucharistie, vous avez tout. Vraiment, vous avez l'Eucharistie, vous avez tout. Et c'est dans la mesure, encore une fois, l'Eucharistie, vraiment, c'est le centre de notre vie. Le culte après la messe, donc l'adoration du Saint-Sacrement, lui, j'ai enjambé beaucoup de choses. Il a écrit 17 volumes, de gros volumes. Alors là, il revient toujours sur la. Il dit, d'ailleurs, le nœud de son charisme, disons, c'est l'amour de Dieu qui n'est pas assez connu, caché dans le Saint-Sacrement. Et son travail, c'est révéler cet amour de Dieu. Si les gens savaient ce qui a amené Jésus-Christ à offrir son corps, à offrir son sang, si les gens savaient cela, si on essaie de vivre cela, eh bien, beaucoup de choses vont changer. Encore une fois, je reviens, cet décentrement sur soi, cette ouverture des yeux, cette capacité de pardonner, de vivre avec les autres, de demander pardon, cette capacité de respecter la dignité des autres, de s'engager dans des œuvres caritatives qui viennent justement de ce décentrement de soi, justement. Et ça, vraiment, c'est ça qui est, comment on appelle, c'est la venue, comment on peut dire ça, de l'Eucharistie nous donne le parfum de la résurrection. Vraiment, c'est une résurrection, c'est une renaissance. Quand on essaie cette expérience-là, on découvre les choses autrement. Voilà, c'est ça que.
Vous voulez
Donc,
dire, Père Thaddée, vous voulez dire, Père Thaddée, que c'est dans l'adoration que se reçoit et s'augmente la charité. Il y a dans des litanies ce beau nom que l'on donne, voici la porte du ciel. Oui.
exactement, oui, voici la, comme vous dites, voici la porte du ciel. Oui, effectivement, c'est-à-dire que, encore, je reviens sur la même chose, notre problème, c'est, disons, le fait que nous ne sentons pas, on ne voit pas. D'ailleurs, c'est aussi le problème que nous avons dissocié la messe, l'adoration de la vie. Vraiment, la messe, l'adoration, la vie, c'est la même chose. On ne peut pas les dissocier. La vérité de nos messes, la vérité de nos adorations se voit justement dans nos actes, dans notre façon d'être avec les autres. Donc, c'est cette parole de Dieu qui est reçue, disons, à la messe déjà, à l'adoration qui est mâchée dans l'adoration, qui, comme le Père Aimard disait, ruminer la parole de Dieu dans l'adoration. Et lorsqu'on essaie de vivre ça, les choses changent vraiment.
Tous ceux,
Déjà
je
par
pense,
nous-mêmes.
tous ceux qui ont vu dans leur paroisse ou autre des adorateurs résolus ont remarqué qu'il y a une sorte d'aura ou d'une lumière qui émane d'eux, comme insensiblement, vous voyez.
Oui, écoutez leurs expériences, vous allez voir, il y a quelque chose, disons, extraordinaire et vraiment qui émane, comme vous avez dit, de leur vie. Peut-être ils n'ont pas conscience, nous n'avons pas conscience, mais en tout cas, quelque chose se passe.
En tout cas, Père Thaddée,
Voilà donc.
merci de nous ancrer dans cette conscience encore et encore de ce trésor, le trésor de l'Église, le trésor de nos cœurs et le trésor aussi de Radio Maria France. Un grand merci, Père Thaddée, d'être venu sur nos ondes de Radio Maria France. Chers auditeurs, c'était notre émission Interview Témoignage. Nous étions avec le Père Thaddée qui nous parlait de Saint-Pierre-Julien Aymard à l'occasion du 60e anniversaire de sa canonisation. Vous pouvez réécoutez cette émission en podcast sur notre site internet radiomaria.fr.